Quelle semaine venons-nous de vivre ? Ce n'est pas la série House of Cards ou Borgen, mais le feuilleton Provençalo-Parigo-Ch'ti, hein, désormais avec l'entrée en lice d'Éric Dupond-Moretti, n'avait rien à leur envier. Quoique, petit flashback sonore signé Capucine Patouillet en moins d'une minute, avec dans les rôles-titres Renaud Muselier, Gabriel Attal, Éric Ciotti, Sophie Cluzel.
Je sais qu'il existe des compétences dans la majorité présidentielle. Je veux fabriquer la meilleure équipe pour la région. Et nous choisirons ensemble les meilleurs d'où qu'ils viennent.
Vous savez, c'est dans notre ADN. On s'est engagé en 2017 derrière l'idée du dépassement politique. C'est une nouvelle étape de dépassement, et d'ailleurs au niveau local, mais c'est aussi une nouvelle étape de clarification au niveau national pour les Républicains.
Aujourd'hui, Renaud Muselier n'est plus que le tête de liste de la liste En Marche. Donc il s'est placé naturellement hors de notre famille politique.
C'est-à-dire que ce matin, vous dites que Renaud Muselier ne fait plus partie de lui-même, du Parti Les Républicains ?
Pour moi, il n'en fait plus partie.
Notre région d'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, qu'il n'y a pas de fusion de liste. Je le répète, personne ne peut douter de ma loyauté, de ma fidélité à l'égard de ma famille politique.
L'objectif était de pouvoir répondre à cette main tendue que Renaud Muselier avait fait mercredi dernier. Depuis, ça a déchaîné quelques égos masculins avec des invectives, avec une violence absolument stupéfiante. Moi, je parle plutôt même d'un combat de coq parisien. Vous aurez remarqué que pendant 5 jours, moi, je me suis tue, mais je suis candidate et la majorité présidentielle sera représentée au premier tour.
Quel feuilleton, les grandes voix ? Est-ce que finalement, le grand perdant, ce n'est pas le politique, la classe politique dans son ensemble ?
Écoutez, c'est pas... Non, c'est normal, c'est de la politique. On est... Moi, je me suis dit dimanche dernier, en lisant le JDD, en voyant l'offensive, donc Castex, je me suis dit, ça y est, là, vraiment, la campagne a commencé. La campagne, on dit toujours, elle va commencer, mais elle a commencé...
Laquelle ? Celle des régionales ou de la présidentielle ?
Non, bien sûr, de la présidentielle. Alors, vous me direz, comme il y a les régionales avant, les régionales sont les hors-d'œuvre de la campagne présidentielle. Donc, je me suis dit, ça a bien commencé. Et ça, c'est un révélateur, je ne vais pas être long, c'est un révélateur pourquoi la campagne présidentielle, c'est vu du côté de l'Élysée, du président Macron, c'est instituer le duel du deuxième tour avec Marine Le Pen. Et avant ça, pour arriver à ce duel, couper toutes les têtes qui peuvent dépasser, dont celle en l'occurrence de Xavier Bertrand, puisqu'elle a légèrement émergé à la tête, effectivement, d'une possible candidature de droite. Voilà, c'est ça l'objet. On peut lire tout ce qui s'est passé dans la semaine à la lueur de ces deux événements. Le duel et d'abord évacuer Bertrand ou tout autre.
Charles Villeneuve.
Moi, je trouve que ce feuilleton, avec son prolongateur dans les Hauts-de-France, avec Dupond-Moretti, a révélé une chose qui me paraît très intéressante. Les stratèges de l'Élysée, ceux qui ont monté toute cette affaire, ont surestimé leur puissance et leur influence. Ils ont sous-estimé celle de leurs adversaires, notamment celle des Républicains, dans les régions. Parce que ils ont, la République En Marche a une faiblesse stratégique majeure. Elle est locale. La République En Marche n'a pas les moyens dans les régions de compter sur ses seules forces pour l'emporter.
Parce que pas d'implantation.
À force de faire travailler la poutre, aujourd'hui, c'est tout leur édifice qui ressort ébranlé de ce feuilleton.
À vrai dire, ce n'est pas le seul édifice ébranlé.
Michel Cotin.
C'est vrai que ces grandes manœuvres, moi ça ne m'étonne pas. On est effectivement dans, au début, fin de pandémie, début d'élection présidentielle. Mais ce qui se passe au fond, c'est que derrière les élections locales, régionales, il y a l'élection présidentielle, mais l'équation n'est pas du tout la même pour l'une et pour l'autre. Pour la première, ce sont les grands partis traditionnels qui sont élus et dont les maires représentent soit les Républicains, soit les socialistes. Ça, c'est un... Et là, dans ce combat-là, la République En Marche est
n'a pas
marginalisée.
Marginalisée, en tout
en
cas.
Revanche, le combat politique pour la présidentielle, il sera autour de et Marine Le Pen et du président de la République actuel qui, effectivement, n'ont pas... l'une a une implantation locale, mais l'autre n'en a pas. Donc, on ne peut pas tellement comparer les présidentielles. On ne peut pas seulement arguer des régionales.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Non, non, mais c'est complémentaire. On ne peut pas arguer des régionales pour dire voilà ce qui va se passer à la présidentielle. Moyennant quoi, je trouve aussi que peut-être la République En Marche est en difficulté, elle est en difficulté locale. Elle reste que le grappillement et le départ progressif des leaders des Républicains pose sûrement un problème aux Républicains qui en sont bien conscients.
Oui, mais Michel, les Français n'ont pas été dupes dans cette affaire. Dans un sondage, ils te montrent bien que c'est une manœuvre pour démolir les Républicains. Et qui est l'initiateur en chef de cette affaire ? C'est le président de la République. Son porte-voix, le Premier ministre, qui a annoncé la fusion
un peu trop fort,
de toute façon. Mais bien sûr.
Mais Michel, je vais rectifier quelque chose d'abord, parce que moi non plus, je n'ai pas dit que c'était... Les choses, c'est des élections de nature différente. Sauf que, vu du dessein présidentiel du président de la République, il s'agit d'utiliser la première échéance, celle des régionales, pour nettoyer le terrain, pour préparer le duel du deuxième tour avec Marine Le Pen. Et c'est cela qui est dans la manœuvre, aussi bien la manœuvre du Pont-Moretti que la manœuvre de PACA, c'est essayer de polariser d'ores et déjà pour le deuxième tour d'une présidentielle.
Vous avez évoqué les manœuvres politiciennes, Catherine Ney. Vous avez lu cette tribune dans le Figaro de cette personnalité LR qui dénonce les affligeantes manœuvres politiciennes du chef de l'État. Monsieur Macron, tout le monde n'est pas à vendre. Est-ce qu'in fine, cette stratégie, finalement, ne risque pas de se retourner contre Emmanuel Macron en vue même de 2022 ?
En tous les cas, Macron a commencé d'ailleurs depuis assez longtemps avec Christian Estrosi, qui a tout de suite été très séduit par Emmanuel Macron. Ça a été une séduction réciproque. Enfin, en septembre dernier, Christian Estrosi voulait que la droite déjà se prononce pour le candidat Macron. Bon, il n'a pas été suivi. Mais Emmanuel Macron, il travaille cette région parce que, bien sûr, il y a des élus. Bien sûr, mais il n'y a plus de chef. Je veux dire, c'est un parti... Or, aujourd'hui, le Parti républicain, qui a des élus partout, qui est encore une force politique, n'a plus de marque parce qu'elle n'a pas de présidentiable. Elle n'en a pas. Donc, Macron, il profite dans cette région. Là, il a son OPA sur avec Muselier était très intéressante. C'est-à-dire, on ne vous propose pas, on ne met pas de candidat face à vous, alors qu'à Marseille et dans la région PACA, c'est une coquille vide.
Oui, mais à l'arrivée, donc, Christian Estrosi se met en marge des Républicains. Oui. Hubert Falco, le maire de Toulon, idem. Et Renaud Muselier se retrouve face à Sophie Cluzel qui maintient sa liste.
Parce que cet accord qui avait été conclu par Muselier en douce et auquel les Républicains n'avaient pas vu quelle était sa teneur, elle a été mise beaucoup trop tôt en exergue par Castex, qui a sûrement été envoyé par le président pour faire ce bruit et ces coups de trompette, alors que ça n'était pas encore fixé, que ceux qui ont négocié en sous-main, c'est à la fois Castaner, qui est très ami avec Muselier, et c'est lui, c'était il y a 6 ans plus tôt, il s'était retiré sans rien négocier pour ne pas faire passer le Front National. Et c'est lui qui a préparé cet accord très avantageux pour pour En Marche, c'est-à-dire 30% sur les listes alors qu'ils ne pèsent rien.
Alors,
mais seulement, comme ce n'était pas bouclé, c'est sorti trop tôt et ça a provoqué, ça a tout fait exploser. C'est Castex qui a tout fait exploser.
On continue à parler de ces manœuvres politiciennes dans le Sud et dans le Nord avec l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti après une première pause. Là encore, que ce soit dans le Sud ou dans le Nord, c'est pimenté. À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
La stratégie de Emmanuel Macron pour détruire la droite, c'est le thème de notre premier débat avec les grandes voix d'Europe 1 dans le Sud, mais aussi dans le Nord de la France. Avant de venir à Éric Dupond-Moretti, Michel Cotta, on évoquait ces manœuvres politiciennes qui ont été dites, en tous les cas avec ce terme-là, par des personnalités LR dans le Figaro. C'est un terme que vous récusez.
Oui, c'est un terme que je récuse, que récuse aussi Gérard Carrérou. C'est le début d'une campagne... présidentielle. Oui, évidemment, il y a des manœuvres. Celle-là et celle sur PACA a été une manœuvre ratée. D'une certaine façon, elle a été ratée puisqu'elle a abouti, au contraire de ce qu'on cherchait, contre le Front National. Alors là, elle est ratée et elle est réussie d'une certaine façon pour le président de la République parce qu'il est arrivé à écorner sérieusement
le camp républicain.
Le camp
c'est
républicain,
plus que jamais divisé, on a entendu les noms de
Les
noms ont volé toute la semaine.
Mais le Rassemblement National se félicite. Thierry Mariani trouve qu'on lui fait un cadeau.
En réalité, elle a échoué totalement. Qu'il ébranle les Républicains, bien sûr, ils sont ébranlés déjà depuis l'élection de Macron, c'est sûr. Mais sauf que là, il a quasiment livré un atout à Thierry Mariani, c'est-à-dire au Rassemblement National, pour être élu à PACA. Or, si Thierry Mariani est élu, si vous voulez, dans le Sud, c'est une énorme région, c'est la deuxième région de France qui sera récupérée par le Rassemblement national.
Oui, mais c'est ça le bilan, oui. Vraiment, le vrai bilan. Sinon,
c'est le vrai
de
bilan.
La semaine. C'est que Thierry Mariani, qui était effectivement touche-touche, mais avec moins, au départ, dans les sondages, moins de voix que Marion Maréchal Le Pen la dernière fois, donc 4 ou 5 points de différence.
Oui,
ça, hein.
Il était quand même devant.
Il était, oui. Je veux dire par là qu'il était derrière et qu'avec cette affaire inespérée pour lui de la semaine, alors qu'on appelle ça de la politique politicienne ou de la politique tout court ou de la grande politique, peu importe, le résultat c'est que c'est un avantage considérable pour le Front National et c'est le séisme, s'il y avait élection en PACA ou dans le Grand Sud du Front National, c'est alors, un séisme avant la présidentielle.
Non, mais on peut dire,
six mois avant la présidentielle.
Le paradoxe, c'est que tout avait été fait justement et tout avait été présenté pour être en mesure de battre le Front National, effectivement était à 4 ou 5 points de Renaud Muselier. Tout a été présenté, il faut se mettre ensemble pour lutter contre le Front National, le Rassemblement National.
Oui.
Et c'est ça qui a échoué.
Depuis plusieurs mois, agit comme un ex-banquier d'affaires qui sait faire les OPA minoritaires. Il grignote du terrain. Il y a la mairie de Lille, maintenant il y a la mairie de Toulon, et il espérait que par cet accord, il avait 30% partout d'élus. Et c'était comme ça qu'il est allé, il est tissé sa toile et il éjectait les gens de droite.
Alors ça,
c'était les gens de droite qu'il voulait d'abord éjecter, plus que le Rassemblement National.
Oui, elle a raison. C'est tout à fait ça. C'est la démarche de la fusion-absorption.
Oui.
Il y a les fusions-acquisitions chez les banquiers d'affaires et les avocats
d'affaires. Et on grignote avec les minoritaires.
Voilà. Mais moi, je dirais plutôt que le président de la République, il a fait sienne, si vous voulez, la devise de Talleyrand, il n'y a pas de conviction, il n'y a que des circonstances.
Et alors, est-ce que ça s'applique au Nord, donc au Hauts-de-France, où le chef de l'État envoie donc Éric Dupond-Moretti, son ministre de la Justice? Est-ce que là, c'est une stratégie habile, risquée?
Ah oui.
En tout cas, c'est une stratégie à laquelle l'entourage d'Emmanuel Macron y pense depuis longtemps. Ça fait plusieurs mois que l'idée, c'est pas une décision qui a été prise il y a 8 jours.
Mmh.
Parce que je pense qu'ils craignent Xavier Bertrand, parce qu'il est candidat déjà, bon, ils le craignent. Ils les agacent, parce que là, ils viennent donner une interview dans le Figaro, où il dit que le président est un destructeur, enfin, peut-être qu'il appuie là où ça fait mal. Et donc,
un calculateur froid.
Donc, ils veulent lui donner une leçon. Bon, or, il a donné des armes pour se faire battre, en disant, je me présente, et dès que je serai élu, je m'en irai. Donc, Macron, on voit bien que le président, que Dupond-Moretti va lui dire, mais voilà, vous vous faites élire pour avoir votre bulletin de sortie et vous en allez donc aux électeurs, ne votez pas pour lui, voyez.
Mais est-ce que Dupond-Moretti finalement ne va pas grignoter des voix plutôt finalement à gauche qu'à droite?
Je crois que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? D'abord parce que effectivement, je pense que beaucoup de Français. Alors, on dira, oh là, ça, c'est un mauvais argument. Mais je trouve que ce n'est pas un si mauvais argument que ça. Beaucoup de Français vont se dire, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire dans le contexte de la France d'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec notre justice et avec nos policiers qui se font tirer dans la rue? Est-ce qu'il
n'y
a pas mieux
débat
à faire pour le ministre de la Justice que d'aller faire la tête de liste dans le Pas-de-Calais? Premier point. Deuxième point, je crois que Dupond-Moretti va renforcer quelque part Bertrand. Il va polariser effectivement l'antimacronisme dans cette région. Je pense que Bertrand peut très bien s'en sortir. Il y aura peut-être, comme on dit maintenant, une quadrangulaire au deuxième tour, et Bertrand aura peut-être du mal, mais je pense que ça peut aussi. C'est-à-dire que le fiasco de PACA peut devenir un fiasco
dans le Nord. Ce qui est intéressant, il y a une candidature unique de la gauche, mais on voit que dans les sondages, la gauche fait 27%, alors que la gauche unie n'en fait plus que 20%. Mmh. Donc il y a tout un réservoir de voix qui pourrait voter Xavier Bertrand.
Michel Pata, puis Charles Villeneuve.
Oui.
Dans tout ça, il y a quand même, on peut dire que le coup de PACA a échoué. On peut dire que le coup du Nord est évidemment un peu risqué. En tout cas, il reste qu'on voit tout de même que les Républicains sont écartelés entre, d'un côté, l'extrême droite de Marine Le Pen, dans lequel il y a une vraie porosité, hein, quand on entend Éric Ciotti dire on a tout en commun avec...
Globalement, sauf
notre capacité à gouverner.
Parce que là, et entre La République En Marche, dont ils auront peut-être besoin, dont certains auront besoin. Non, mais
c'est ce que les macronistes disent d'Éric Ciotti.
Oui,
voilà, parce que là,
les Républicains s'en vont quand même.
Non, mais restons dans le Nord. L'idée du président de la République est de tordre le bras de Xavier Bertrand et de lui montrer qu'il n'y a d'autre alternative que de discuter avec les marcheurs pour mieux vaincre le Rassemblement national. Bertrand a fait de Macron son adversaire final, en quelque sorte. Il ne veut pas d'émergence à droite. C'est la raison pour laquelle il envoie Dupond-Moretti pour gratter quelques points, parce que
pour franchir les 10%, oui, pour franchir les 10%, deuxième tour.
Parce que dans beaucoup de régions, La République En Marche est incapable de franchir, présent
au
deuxième tour.
Oui, mais elle peut être l'appoint, justement.
Oui, mais justement, c'est cet appoint-là, de toute façon, connaissant, comme nous connaissons Xavier Bertrand, nous savons qu'il mourra avec ses idées. Je pense qu'il capitulera pas.
Il avait dit que s'il était battu, il s'en irait de la politique.
Et puis, il faut quand même rappeler que Dupond-Moretti, il est quand même garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il a deux lois, avant même le 27 juin, le deuxième tour des élections régionales, à faire passer.
C'est la raison pour laquelle il dit qu'il n'est pas tête de liste au régional, mais simplement...
Tête de liste dans deux projets de loi.
Deux projets de loi sur la confiance...
Dont il est le natif.
Oui, sur la confiance dans l'institution judiciaire. Et un autre sur le régime de l'irresponsabilité pénale dans l'affaire Halimi.
Alors justement, de justice, on va parler juste après cette nouvelle pause, et de sécurité aussi, après ces deux terribles faits divers qui ont secoué la France cette semaine à Mérignac et Avignon. Restez avec nous, à tout de suite.